Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le samedi 8 juin. Vous écoutez Flash sur le monde par Elise Bock. En fait, ici, au moment où j'enregistre, il est 20h15. Je devrais vous dire bonsoir. Mais bon, c'est tout pareil, c'est tout comme. Pour commencer cette émission qui aura un peu la forme d'une revue de presse, j'ai. Oh, aujourd'hui, je voulais. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Peut-être je voulais enregistrer cette émission plus tôt. Et il n'y avait pas de réseau. Impossible de charger du crédit pour Internet parce qu'ici au Cameroun, Internet, c'est cher. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que le marché est partagé entre Orange Money, enfin Orange Money, on dit toujours Orange Money, Orange et MTN. Bon, Orange Money et MTN, maintenant, ce sont des portes, comment on appelle ça, des porte-monnaie électroniques. Vous pouvez faire des achats avec ça, des cartes, c'est de la monnaie digitale, hein. Ça fait concurrence un peu avec les banques classiques, mais au Cameroun, ça va très bien parce que c'est un pays, je ne sais pas comment le qualifier, ou sous-développé, ou en voie de développement, ou à revenu, au revenu intermédiaire, je ne sais pas, je sais pas. Et donc, beaucoup de gens n'ont vraiment pas de compte bancaire, et encore quand ils en ont un, c'est un peu raide, quoi. C'est un peu raide parce qu'on n'est pas dans une société où il y a du crédit. Et pour contrecarrer un peu la chose, les Camerounais font des tontines, et les tontines servent de banque parce qu'on peut avoir une tontine qui fait de l'épargne crédit. Et une autre qui fait uniquement l'épargne, et ça dure un an, au bout duquel c'est pas mal parce que c'est associé aussi à une dimension sociale qui fait que lorsque vous êtes malade, vous pouvez emprunter, vous avez un coup dur, vous pouvez emprunter. Ça facilite les choses en fait pour ceux qui sont affiliés à ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Et donc, il y a des gens qui. Et ici au village, parce que là je suis dans campagne, c'est hallucinant le nombre de tontines qu'il y a et le nombre de tontines auxquelles les gens participent. Ça se demandait, vous admirez où ils prennent l'argent, c'est phénoménal. Mais voilà, c'est leur couverture sociale, c'est leur couverture santé, c'est leur couverture économique parce que. Il y en a qui ont une activité économique et lorsqu'ils sont en panne, bah, enfin lorsqu'ils sont, c'est souvent, ouais, c'est une forme de rebelote. On tourne, on tombe en faillite, on fait faillite parce qu'on cotise dans plusieurs associations et puis après une fois que c'est la fin de l'année ou qu'on peut prendre un crédit par-ci par-là et on renfloue, et c'est une gymnastique. Mais bon. Apparemment, ça marche et ils sont bien, hein, ils sont bien. Et c'est pour cela que j'avais critiqué le coût de l'Africain qui vit en dessous de 2 dollars par jour, si pas au village, hein, ou en campagne, à moins qu'il soit vraiment le gros fainéant. C'est plutôt en ville qu'on trouve ces choses-là avec des taux de chômage assez hallucinants. Donc, revue de presse un peu. Pourquoi je dis revue de presse? Parce qu'on va quand même emprunter des éléments un peu par-ci, par-là. Et donc moi, j'ai voulu faire cette émission avant cette heure-ci et ce n'était pas possible. Le réseau a bugué. Et j'ai dit, mais MTN et Orange, ils ont quand même le monopole ici. Ils font la pluie et le beau temps en matière de télécom. Et si vous voulez, c'est choquant parce qu'ils se font un fric fou sur le dos des Africains, des Camerounais qui payent, je vais dire, il suffit qu'MTN, même à un prêt à 1 euro par jour aux gens qui veulent téléphoner. On peut vous accorder des petits prêts, des petits tout petits. Hein. Tout ça se fait par téléphone et par million, ça va très vite. Donc, je ne comprends pas comment on peut avoir le monopole dans un pays et puis après dire qu'on n'a pas le réseau parce que c'est les télécoms, c'est pas le même groupe. Les télécoms, c'est le ministère, apparemment. Et les opérateurs, la téléphonie, c'est autre chose. Bon, ça, c'est pour embrouiller les gens. Ce qui est sûr, c'est parce que c'est qu'au Cameroun, ce sont déjà aussi, entre autres, les grandes manœuvres présidentielles, des élections présidentielles qui ont commencé. Et moi, je pensais en me disant, mais s'il y avait un programme, il faut nationaliser les télécoms, il faut. En fait, Orange et MTN, ce n'est pas la question, mais c'est le monopole. Pourquoi il n'y a pas un réseau national parallèle? Pourquoi ce sont les étrangers, je peux carrément le dire, qui gèrent la téléphonie et Internet et tout ce que vous voulez en termes de télécom au Cameroun? Pourquoi la garde présidentielle, elle est dirigée par ce qu'on appelle les agents du Mossad? Pourquoi, c'est-à-dire, l'Afrique est toujours colonisée par un ensemble de process, on va dire, très différents. Là, vous avez une colonisation financière, c'est clair. Vous avez une colonisation économique. Les grands groupes que vous connaissez à l'étranger sont là. Et même qu'on annonce un grand groupe de la transformation du chocolat, donc une chocolaterie, par un Français, c'est un scandale, vous savez, l'Afrique est déjà une économie de la rente. Et le cacao fait partie de ces rentes-là. Si en plus on vient préempter la rente sur place, c'est hallucinant. C'est hallucinant. D'ailleurs, on a la même chose avec les brasseries du Cameroun qui ont ouvert, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ils l'ont annoncé, je ne sais pas si c'est déjà opérationnel, une grande ferme pour faire des. Pour élever des poulets, les vendre, je sais pas ce qui s'est. J'ai rien compris, j'ai rien compris à l'affaire. Mais bon, pourquoi pas, il y a un grand marché du poulet, mais là aussi, une concurrence, je veux dire. Ah, c'est difficile à comprendre parce que cet esclavage, donc, il passe par toute la captation de l'économie par ces multinationales, et puis par-dessus tout, il y a l'esclavage minier, il y a l'esclavage de la construction des infrastructures, il y a l'esclavage, bien sûr, qui passe par tous les réseaux ésotériques que vous connaissez, y compris les LGBT, mais surtout le modèle gay. Et par-dessus tout, il y a l'esclavage par la dette. Bon. On va pas dire l'esclavage, on va dire la colonisation, mais c'est la même chose pour moi. Ou le néocolonialisme. Bon, ce sont ces sujets très, très sensibles auxquels peut-être cette présidentielle ne veut pas s'attaquer, parce que dès le début, déjà, il y a eu un coup dur pour un candidat qui était, comment on dit, une étoile montante, M. Cabralybi. Qui fait partie, qui était le président d'un parti qui se nommait le Parti camerounais de la réconciliation nationale. La réconciliation, c'est important parce que on a une guerre larvée là entre les anglophones et les francophones, mais la meilleure façon de faire, c'est de ne pas en parler. Voilà, on n'en parle pas. Encore un sous-secteur géré par le Mossad, entre guillemets, qui entraîne donc les agents qu'on appelle les brigades d'intervention rapide, le BIR, qui sont là-bas, les soldats qui font la guerre, cette guerre qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Il y a un blackout sur cette guerre. Le Cameroun vit comme s'il n'y avait pas de guerre civile, comme s'il y avait. C'était rien, quoi. Pourtant, il se passe des choses là-bas. On entend, tel est mort. Bon, sans plus. No comment. Réconciliation nationale aussi, parce que y a une question quand même de clivage ethnique au Cameroun qui fait que le parti du président serait plutôt un parti de son ethnie, enfin, où son ethnie serait favorisée. dans l'attribution des postes et pas les autres et qui doivent se démerder. Bon, en fait, il y a un clivage ethnique qui est assez fort quand même. Et quand on dit réconciliation, c'est de promouvoir ce que le président lui-même a si bien appelé, le président Biya, le vivre ensemble. Ça, c'est très la politique, hein, c'est-à-dire que vous faites exactement le contraire de ce que vous prônez. Alors, les grandes manœuvres ont commencé. Ce président, M. Cabral Libi, président de ce parti de la Réconciliation nationale, en fait, ce n'était pas son parti. C'est quelqu'un aussi qui a un parcours atypique en politique. Il n'a pas de parti à lui. Il a commencé par un parti qui s'appelait L'Avenir, je ne crois pas, ou Avenir, je ne sais plus, que quelqu'un d'autre avait créé, et qu'il avait mis lui comme le cheval de course. Par la suite, à la fin, ils se sont brouillés parce qu'entre-temps, M. Cabral Libi en est ressorti avec une idée qu'il appelait, il a baptisé le mouvement 11 millions de citoyens. Il voulait donc transformer ce mouvement en parti politique. On lui a dit non. Bon, changement de braquet parce qu'il s'est fâché avec M. Kouvono, qui est un professeur, je crois, de droit en Ngaoundéré. Et qui, avec dans son parti qui s'appelait Avenir, c'est plus bien, j'ai oublié le nom. Après, je ne sais pas si c'est sur l'avenir, mais quelque chose comme ça. Après, M. Cabral Libi prend contact avec ce parti de la Réconciliation nationale qui croupissait aussi toujours au nord. Vous allez voir, le nord ici, au Cameroun, c'est le lieu où se décident les élections parce que là-bas, il y a une natalité, un taux de natalité phénoménal. Et du coup, le nombre de citoyens et d'électeurs est très important. Il est reparti comme avant, dans ce parti qui n'est pas le sien, qui appartient à quelqu'un d'autre, mais qui, ce quelqu'un d'autre, voulait se faire connaître. Vous savez, c'est toujours un jeu de dupes en politique. Pendant les 4 ans, là, depuis, tout allait bien, et tout d'un coup, les élections sont annoncées pour 2025, rien ne va plus. Alors, coup d'État, on va dire comme ça, une réforme tout d'un coup, parce que ce monsieur de ce parti n'est plus d'accord avec son cheval, monsieur Cabral Libi, qui est d'ailleurs député hein, et secrétaire général de l'Assemblée nationale. Alors, comment l'éjecter? Un coup d'État orchestré apparemment par. Enfin, orchestré, aidé par le ministre de l'Intérieur, a fait que, de l'administration territoriale, pardon, je ne sais plus quoi, a fait que, on a convoqué un congrès extraordinaire et ce congrès a limogé le président Cabral Libi, qui n'est plus président de ce parti, mais l'affaire suit son cours devant les tribunaux, parce que M. Cabral Libi estime que c'était à lui qu'il revenait de convoquer ce congrès extraordinaire qui le destitue, et non au fondateur du parti. Très compliqué. Mais voilà, les grandes manœuvres commencent. Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le samedi 8 juin. Vous écoutez Flash sur le monde par Élise Mbock. En fait, ici, au moment où j'enregistre, il est 20h15, je devrais vous dire bonsoir. Mais bon, c'est tout pareil, c'est tout comme. Pour commencer cette émission qui aura un peu la forme d'une revue de presse, j'ai. Oh, aujourd'hui, je voulais. Je sais pas ce que je voulais faire, peut-être je voulais enregistrer cette émission plus tôt. Et il n'y avait pas de réseau. Impossible de charger du crédit pour Internet parce qu'ici au Cameroun, Internet c'est cher et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que le marché est partagé entre Orange Money, enfin Orange Money, on dit toujours Orange Money, Orange et MTN. Bon, Orange Money. Et MTN, maintenant, ce sont des portes, comment on appelle ça, des porte-monnaie électroniques. Vous pouvez faire des achats avec ça, des cartes, c'est de la monnaie digitale, hein. Ça fait concurrence un peu avec les banques classiques. Mais au Cameroun, ça va très bien parce que c'est un pays, je sais pas comment le qualifier, ou sous-développé, ou en voie de développement, ou à revenu, au revenu intermédiaire, je sais pas, je sais pas. Et donc, beaucoup de gens n'ont vraiment pas de compte bancaire, et encore quand ils en ont un, c'est un peu raide, quoi. C'est un peu raide parce qu'on n'est pas dans une société où il y a du crédit. Et pour contrecarrer un peu la chose, les Camerounais font des tontines, et les tontines servent de banque parce qu'on peut avoir une tontine qui fait de l'épargne crédit et une autre qui fait uniquement l'épargne, et ça dure un an. Au bout duquel, c'est pas mal parce que c'est associé aussi à une dimension sociale qui fait que lorsque vous êtes malade, vous pouvez emprunter, vous avez un coup dur, vous pouvez emprunter. Ça facilite les choses en fait pour ceux qui sont affiliés à ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. Et donc, il y a des gens qui, et ici au village, parce que là, je suis dans campagne. C'est hallucinant le nombre de tontines qu'il y a et le nombre de tontines auxquelles les gens participent. Ça se demandait, vous admirez où ils prennent l'argent, c'est phénoménal. Mais voilà, c'est leur couverture sociale, c'est leur couverture santé, c'est leur couverture économique parce que il y en a qui ont une activité économique et lorsqu'ils sont en panne. Bah, enfin, lorsqu'ils sont, c'est souvent, ouais, c'est une forme de rebelote. On tourne, on tombe en faillite, on fait faillite parce qu'on cotise dans plusieurs associations. Et puis après, une fois que c'est la fin de l'année ou qu'on peut prendre un crédit par-ci par-là et on renfloue, et c'est une gymnastique. Mais bon, apparemment, ça marche et ils sont bien, hein, ils sont bien. Et c'est pour cela que j'avais critiqué le coût de l'Africain qui vit en dessous de 2 dollars par jour, si pas au village, hein, ou en campagne, à moins qu'il soit vraiment le gros fainéant. C'est plutôt en ville qu'on trouve ces choses-là avec des taux de chômage assez hallucinants. Donc, revue de presse un peu. Pourquoi je dis revue de presse? Parce qu'on va quand même emprunter des éléments un peu par-ci, par-là. Et donc moi j'ai voulu faire cette émission avant cette heure-ci et c'était pas possible, le réseau a bugué. Et j'ai dit, mais MTN et Orange, ils ont quand même le monopole ici. Ils font la pluie et le beau temps en matière de télécom. Et si vous voulez, c'est choquant parce qu'ils se font un fric fou sur le dos des Africains, des Camerounais qui payent, je vais dire, il suffit qu'MTN. Même à un prêt à 1 € par jour aux gens qui veulent téléphoner. On peut vous accorder des petits prêts, des petits tout petits. Hein. Tout ça se fait par téléphone et par million, ça va très vite. Donc, je ne comprends pas comment on peut avoir le monopole dans un pays et puis après dire qu'on n'a pas le réseau parce que c'est les télécoms, c'est pas le même groupe. Les télécoms, c'est le ministère, apparemment. Et les opérateurs, la téléphonie, c'est autre chose. Bon, ça, c'est pour embrouiller les gens. Ce qui est sûr, c'est parce que c'est qu'au Cameroun, ce sont déjà aussi. Entre autres, les grandes manœuvres présidentielles, des élections présidentielles qui ont commencé. Et moi, je pensais en me disant, mais s'il y avait un programme, il faut nationaliser les télécoms, il faut. En fait, Orange et MTN, ce n'est pas la question, mais c'est le monopole. Pourquoi il n'y a pas un réseau national parallèle? Pourquoi ce sont les étrangers, je peux carrément le dire, qui gèrent la téléphonie et Internet et tout ce que vous voulez en termes de télécom au Cameroun. Pourquoi la garde présidentielle, elle est dirigée par ce qu'on appelle les agents du Mossad? Pourquoi, c'est-à-dire, l'Afrique est toujours colonisée par un ensemble de process, on va dire, très différents. Là, vous avez une colonisation financière, c'est clair. Vous avez une colonisation économique. Les grands groupes que vous connaissez à l'étranger sont là. Et même qu'on annonce un grand groupe de la transformation du chocolat, donc un chocolaterie, par un Français, c'est un scandale. Vous savez, l'Afrique est déjà une économie de la rente. Et le cacao fait partie de ces rentes-là. Si en plus on vient préempter la rente sur place, c'est hallucinant. C'est hallucinant. D'ailleurs, on a la même chose avec les brasseries du Cameroun qui ont ouvert, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ils l'ont annoncé, je ne sais pas si c'est déjà opérationnel, une grande ferme pour faire des. Pour élever des poulets, les vendre, je ne sais pas ce qui. J'ai rien compris. J'ai rien compris à l'affaire. Mais bon, pourquoi pas, il y a un grand marché du poulet, mais là aussi, une concurrence, je veux dire. Ah, c'est difficile à comprendre parce que cet esclavage, donc, il passe par toute la captation de l'économie par ces multinationales. Et puis, par-dessus tout, il y a l'esclavage minier, il y a l'esclavage de la construction des infrastructures, il y a l'esclavage, bien sûr, qui passe par tous les réseaux ésotériques que vous connaissez, y compris les LGBT, mais surtout le modèle gay. Et par-dessus tout, il y a l'esclavage par la dette. Bon. On va pas dire l'esclavage, on va dire la colonisation, mais c'est la même chose pour moi. Ou le néocolonialisme. Bon, ce sont ces sujets très, très sensibles auxquels peut-être cette présidentielle ne veut pas s'attaquer, parce que dès le début, déjà, il y a eu un coup dur pour un candidat qui était, comment on dit, une étoile montante, M. Cabral-Libi. Qui était le président d'un parti qui se nommait le Parti camerounais de la réconciliation nationale. La réconciliation, c'est important parce que on a une guerre larvée là entre les anglophones et les francophones, mais la meilleure façon de faire, c'est de ne pas en parler. Voilà, on n'en parle pas. Encore un sous-secteur géré par le Mossad, entre guillemets, qui entraîne donc les agents qu'on appelle les brigades d'intervention rapide, le BIR, qui sont là-bas, les soldats qui font la guerre, cette guerre qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Il y a un blackout sur cette guerre. Le Cameroun vit comme s'il n'y avait pas de guerre civile, comme s'il y avait. C'était rien, quoi. Pourtant, il se passe des choses là-bas. On entend, tel est mort. Bon, sans plus. No comment. Réconciliation nationale aussi, parce que il y a une question quand même de clivage ethnique au Cameroun qui fait que le parti du président serait plutôt un parti de son ethnie, enfin où son ethnie serait favorisée dans l'attribution des postes et pas les autres, et qui doivent se démerder. Bon, en fait, il y a un clivage ethnique qui est assez fort quand même. Et quand on dit réconciliation, c'est de promouvoir ce que le président lui-même a si bien appelé, le président Biya, le vivre ensemble. Ça, c'est très la politique, hein, c'est-à-dire que vous faites exactement le contraire de ce que vous prônez. Alors, les grandes manœuvres ont commencé. Ce président, M. Cabral-Libi, président de ce parti, de la Réconciliation nationale, en fait, ce n'était pas son parti. C'est quelqu'un aussi qui a un parcours atypique en politique. Il n'a pas de parti à lui. Il a commencé par un parti qui s'appelait L'Avenir, je ne crois pas au Avenir, je ne sais plus, que quelqu'un d'autre avait créé, et qu'il avait mis lui comme le cheval de course. Par la suite, à la fin, ils se sont brouillés parce qu'entre-temps, M. Cabral-Libi en est ressorti avec une idée qu'il appelait, il a baptisé le mouvement 11 millions de citoyens. Il voulait donc transformer ce mouvement en parti politique. On lui a dit non. Bon, changement de braquet parce qu'il s'est fâché avec M. Kouvono, qui est un professeur, je crois, de droit en Ngaoundéré. Et qui, avec dans son parti qui s'appelait Avenir, je sais plus bien, j'ai oublié le nom. Après, je ne sais pas si c'est l'avenir, mais quelque chose comme ça. Après, M. Cabral-Libi est prends contact avec ce parti de la Réconciliation nationale qui croupissait aussi toujours au nord. Vous allez voir, le nord ici, au Cameroun, c'est le lieu où se décident les élections parce que là-bas, il y a une natalité, un taux de natalité phénoménal. Et du coup, le nombre de citoyens et d'électeurs est très important. Il est reparti comme avant dans ce parti qui n'est pas le sien, qui appartient à quelqu'un d'autre, mais qui, ce quelqu'un d'autre, voulait se faire connaître. Vous savez, c'est toujours un jeu de dupes en politique. Pendant les 4 ans, là, depuis, tout allait bien, et tout d'un coup, les élections sont annoncées pour 2025, rien ne va plus. Alors, coup d'État, on va dire comme ça, une réforme tout d'un coup, parce que ce monsieur de ce parti n'est plus d'accord avec son cheval, monsieur Cabral Libii, qui est d'ailleurs député hein, et secrétaire général de l'Assemblée nationale. Alors, comment l'éjecter? Un coup d'État orchestré apparemment par, enfin, orchestré, aidé par le ministre de l'Intérieur, a fait que, de l'administration territoriale, pardon, je sais plus quoi, a fait que, on a convoqué un congrès extraordinaire et ce congrès a limogé, le président Cabral Libii, qui n'est plus président de ce parti, mais l'affaire, suit son cours, devant les tribunaux, parce que M. Cabral Libii estime que c'était à lui qu'il revenait de convoquer ce congrès extraordinaire qui le destitue et non au fondateur du parti. Très compliqué. Mais voilà, les grandes manœuvres commencent. Surtout que dès que le parti change de main, ou plutôt, on va dire pour le moment, le fondateur déclare son amour pour le parti du président, qu'il faut évidemment soutenir M. Biya, qui a, je sais pas, 90 ans ou 88, j'en sais plus rien. Et qui est parti pour un autre mandat. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais va donc probablement faire les élections tout seul parce que l'autre parti, M. Kamto, le parti de la Renaissance, est disqualifié, là aussi pour des raisons de process électoral. Et il fallait qu'il fasse les élections. Enfin, le code dit, celui qui n'a pas de représentant au niveau municipal, régional et régional ne peut pas, ou au niveau aussi des législatives, ne peut pas prétendre à la candidature. Très compliqué. Il se trouve donc qu'il y avait, en gros, il n'y a que 3 partis. Qui étaient représentés, qui sont représentés à ce niveau-là. Le parti donc du président, le RDPC, puis le parti de M. Cabral Libii, la Réconciliation nationale, et un parti traditionnel, je vais dire comme ça, parce que on ne sait plus comment on peut l'appeler, mais c'est le parti du fondateur, enfin du père de la République, fondateur de la République, parce qu'on peut dire que M. Oumniobé, qui était donc le président de l'UPC, l'Union des Populations Camerounaises, est celui qui a revendiqué et obtenu l'indépendance au Cameroun au prix de sa vie. Bon, voilà les données du Cameroun. L'UPC, ça fait depuis qu'ils sont ensemble, ils sont de mèche avec le RDPC. Monsieur Cabral Libii, qui a été suspendu, on va dire ça pour le moment, son parti, la Réconciliation nationale, rejoint le RDPC. Monsieur Kamto, du parti La Renaissance, ne peut pas concourir. Du coup, on a 3 partis. Mais en fait, c'est le parti unique qui revient avec des ramifications, comment on va dire, qui ont l'air de faire diversification. Mais en fait, c'est du pareil au même. Bon, voilà les élections, ce que ça va donner quoi? En fait, on va pas être, il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise. Le RDPC, le président Biya en place, sera réélu triomphalement. Et il y aura des arrangements au niveau des législatives, au niveau des municipales et au niveau régional. Comment se partager les sièges entre ces trois parties qui tous sont déjà dans le même bateau. L'opposition, ça n'existe plus, et c'est là qu'on se dit, mais c'est incroyable. Plus la démocratie avance, plus on se recroqueville sur la confiscation du pouvoir et sur des positions vraiment dignes je sais pas, du despotisme. On disait, on parlait, quand j'étais à l'école, on parlait d'un despotisme éclairé, mais celui-ci, de despotisme, il est assez, assez tordu quand même, parce qu'on a là des choses, des coups bas qui sont montés pour gagner des élections. Regardez en Amérique, c'est la même chose avec Joe Biden. Qu'est-ce que Joe Biden fait? Il colle un procès à M. Trump pour le disqualifier moralement, parce qu'il sent qu'il a la peine, il faut qu'il veut garder le pouvoir. Peut-être pas pour lui, mais pour, c'est toujours un groupuscule hein, qui se constitue pour garder le gâteau et partager peut-être les miettes aux petits pauvres. Bon, donc, cette affaire-là, la justice. Soit elle est instrumentalisée, comme c'est le cas avec Trump là-bas, soit elle est muselée ici au Cameroun. Ben, c'est difficile de contrecarrer le RDPC. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que le RDPC cautionne cette mise en tutelle dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire. Cette forme de nouvel esclavage et puis la dette, bien sûr, qui va continuer et aliéner les peuples et les peuples aussi qui suivent. On comprend pas cette aliénation, mais c'est comme ça. C'est le nouveau monde et que dire, que dire, que dire. Pour l'Afrique, il y a quand même un petit espoir, c'est que. On a quand même le Niger, le Mali, le Burkina Faso, qui résistent bien, qui résistent très bien et qui relancent, je ne sais pas si on peut parler de démocratie, parce que la démocratie même est devenue un mot bateau, qui relance la République, peut-être la République c'est mieux, c'est-à-dire l'état de droit et une certaine façon de faire la politique en étant responsable et en ayant à cœur l'idée de la nation à protéger. Quand vous voyez aux États-Unis qu'on soupçonne le ministère de la Défense d'être partie prenante ou plutôt d'être au courant, je ne vais pas qualifier ça vraiment de ce qu'on dit, avec le trafic de drogue mexicain, et qu'en même temps, vous voyez que la frontière du Texas hein, fait passer des gens comme ça, en pêle-mêle, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire d'un côté, vous êtes plus ou moins lié avec les cartels. Ou plutôt, vous fermez les yeux, je ne sais pas, mais vous le savez. Et de l'autre, vous faites semblant de découvrir que, oui, les gens passent, les gens passent. Ce sont des deals souterrains qui ne sont pas avoués et qui aboutissent à quelque chose d'assez bizarre, qui est que l'immigration même, le ministère de l'immigration, serait aussi partie prenante d'une façon peu conventionnelle de cette intrusion comme cela des immigrés qui viennent, on ne sait pas d'où, on dit le Mexique, et qui arrivent. Derrière, il y a un calcul démoniaque qui est celui d'en faire des électeurs aussi. Vous voyez, on va chercher les électeurs où on peut. Au Cameroun, le RDPC s'est élargi jusqu'au parti que je vous ai cité à annexer tout le monde. Là, les démocrates font pareil. Ils font venir les électeurs de l'extérieur. Comme en Amérique, on peut parfois voter sans avoir la nationalité, uniquement avec la carte de résidence. Il y a des choses qui peuvent passer, surtout si on refait le coup du Covid et qu'il faut voter par voie postale. Mais je pense qu'ils ne referont pas. Mais ce qui est plus profond dans cette histoire, c'est que l'avenue des gens comme ça va introduire une forme d'indistinction dans le parcours et puis dans ce qu'on va appeler même l'identification des gens. On dira en Amérique, en Américain, oui, mais les origines sont faussées. Et c'est comme ça qu'on construit des sociétés bâtardes, des nations bâtardes, où on ne peut plus démêler les chevaux. Tout le monde est comme ça. Bon, après ça, c'est toujours des tactiques qui veulent soutenir cette mode unisexe, vous voyez, gay, LGBT, ils sont en train de dire, ah oui, ben vos enfants vont nous adorer, c'est les LGBT qu'ils disent, vos enfants vont nous adorer, mais bien sûr qu'ils vont vous adorer, surtout si c'est les enfants de ceux qui entrent comme ils entrent, dans un état soit de gangstérisme, soit de faiblesse, dans les deux cas, c'est du pareil au même, ça peut produire du LGBT facilement. Bon, l'idée c'est le calcul diabolique dans lequel les politiciens sont entrés est affolant. C'est affolant parce que on se demande jusqu'où ils vont aller et c'est surtout dangereux parce que quand ils font sauter tous les verrous d'une nation, on ne sait plus ce qui reste. Hein. Peut-être le crime à Gaza. Et il n'est pas étonnant qu'au moment où on condamne M. Netanyahou à la CPI, à la Cour pénale internationale, que ce soit aussi le moment où on dit oui, mais Trump est coupable dans je vais dire, une parodie de justice. Et on accuse M. Trump de quoi? Mais attendez, il faut voir. Hein. M. Trump, c'est un empire. C'est un empire qui crée la jalousie pour ceux qui créent rien sauf la fraude et à partir de la fraude ou en se servant la religion, vous voyez, des suceurs du travail des autres. Monsieur Trump, c'est un bâtisseur. Il a ce qu'il a, il a la pierre. Il n'a pas la fausse monnaie hein, qu'on fabrique comme le vent à la bourse dans la spéculation avec un argent qu'on n'a même pas et qu'on prête. Voilà. Et on récupère la mise à la fin. Monsieur Trump n'est pas dans le casino de cette façon, j'allais dire, frontale, mécanique, bête et méchant. Non, il est là parce qu'il crée d'abord à partir de la pierre et après on peut abriter un casino, c'est différent. Et pour ça, il ne peut pas être aimé par ces agents du système qui n'ont rien, en fait, en vrai. Sauf en s'accrochant sur les autres, sur les peuples, sur les nations puissantes, et notamment en les ramenant vers le fond. Alors, c'est une bonne coïncidence, on l'accuse. Il a falsifié les documents comptables de son empire en cachant sa relation avec une travailleuse de sexe. Et laquelle travailleuse de sexe, et je vais dire, on appelle ça les artistes porno. Et comment dire, s'il suffit pour M. Trump de cacher 100 000 dollars, c'est tellement petit pour lui parce que c'est quelqu'un qui représente quelque chose de plus grand et de plus fort que cela. Ce n'est pas 100 000 dollars ou même 200 000 dollars ou même 500 000 qui vont changer quelque chose à sa fortune. Donc c'est un prétexte parce qu'après, en tirant par les cheveux, qu'est-ce qu'on dit? On finit par dire comme oui, mais oh, c'est quelqu'un, il a fait ça parce qu'il voulait frauder électoralement, parce que si on l'avait su, il n'aurait pas gagné. Mais tout ça, c'est toujours à titre préventif pour M. Joe Biden. Pour que lorsque on dira que lui, il avait fraudé les élections en 2016, on dira aussi que oui, mais en 2016, je ne sais plus on est quand, là, en 2020, pardon, On dirait ce que oui, mais Trump en 2016, il a aussi essayé de faire la chose. Vous voyez, c'est toujours des calculs comme ça qui font que quel est l'intérêt de la politique aujourd'hui? Très peu, mais il faudra bien voter. Et d'ailleurs, les électeurs, c'est curieux, ils ont fait quelque chose de bizarre, c'est qu'au lendemain de la déclaration de la culpabilité de M. Trump, de la présomption de la culpabilité, parce que le jury qui le dit, il y a eu une éruption de dons. Hein? Les dons ont explosé au point que le serveur ne pouvait plus suivre, tellement les gens envoyaient des dons. Les serveurs ne pouvaient plus suivre et ça a suivi par la suite. Et on se rend compte que dans ces millions de gens qui ont posté les dons, 41% environ, hein, près d'un tiers, étaient les premiers donateurs. C'était la première fois qu'ils donnaient. C'est des petites sommes, hein. Ce n'est pas les millionnaires, c'est des petites sommes. Mais bon, ces petits donateurs, ce n'est pas rien parce qu'au final, ils finissent par donner plus que les milliardaires, puisque Monsieur Trump, on va dire ainsi, a eu plus de dons que Monsieur Biden ce mois-ci. Et c'est pas plus mal, c'est même une très bonne chose. Bon, dans ce désarroi ou ce non-sens qu'est la société d'aujourd'hui, il y a quand même deux sociétés qui. Il y a deux nations qui se distinguent. Il s'agit de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni. Donc l'Afrique du Sud comment dire, a organisé des élections et les élections se sont bien passées. Tout a été fait dans la transparence, ce qui est rare aujourd'hui parce que on a plutôt tendance à magouiller. Mais c'est assez phénoménal parce que l'Afrique du Sud, au bout de la nuit, d'une très longue nuit de la prison de Mandela, quand l'Afrique du Sud en sort, elle ressort vraiment proprement parce que l'ANC gagne les élections depuis 1994. Mais le problème aussi de l'Afrique du Sud, c'est que l'économie est toujours confisquée par les Afrikaners, si on peut dire comme cela. Et les Noirs n'ont pas encore vraiment, malgré une classe, comment on va dire, une classe montante noire, très infime. On parle, je sais pas si on va dire des riches, on va dire classe moyenne, mais globalement ça va pas. La situation est bloquée, mais ça c'est comme ça. C'est pas, il y a toujours une forme de détournement des biens publics, de la morale, du projet, qui fait que le mécontentement aboutit forcément à la destitution de l'ANC, parce que l'ANC est dans une forme d'ambiguïté que Robert Mugabe n'avait pas. Robert Mugabe était clair là-dessus, hein. Il tergiversait pas, il allait droit au but dans le rééquilibrage des richesses entre, par exemple, ceux qui avaient la terre, les Blancs, et ceux qui étaient les véritables propriétaires, mais qui avaient été dépossédés par la colonisation. Alors on l'a accusé de. On l'a traité tous les noms, hein. Mais oui, à un moment donné, il faut couper dans le vif. On ne peut pas laisser de bourgs, je ne sais pas, de billards, si je sais leur nom, là, faire les diamants comme ça, s'enrichir à Anvers avec le diamant africain et des Sud-Africains. Et puis ben, et les Sud-Africains, ils voient pas le bout du tunnel. C'est pas possible. Donc il y a des choses à nationaliser de façon en coupant dans le vif. C'est très clair, comme on a dit au début pour le Cameroun, parce que le Cameroun doit nationaliser non seulement les télécoms, il faut nationaliser l'eau, il faut nationaliser l'électricité, l'énergie. comme on dit, il faut nationaliser, enfin, au minimum, cela. Il faut avoir des marges de manœuvre de l'État et pas toujours être soumis à tutelle. Mais alors, en Afrique du Sud, l'économie est restée telle quelle, les forces sont restées telles quelles. Ça n'a pas changé vraiment. Alors, ce qui est étonnant dans l'affaire, c'est que c'est le parti de Jacob Zuma qui fait partie de ceux qui ont trahi l'ANC et le peuple sud-africain, qui fait une percée et puis empêche l'ANC d'être majoritaire. Alors ils vont composer, ça sera encore peut-être pour se partager le gâteau. Moi, j'attends rien de particulier dans cette histoire-là, parce que Zuma, on sait bien ce qu'il a fait, il s'enrichit beaucoup avec ses 4 femmes et puis ses combien d'enfants. Non, mais c'est bon, quoi, le modèle n'est pas terrible. Bon, ah, c'est leur problème. L'Afrique du Sud, on parle d'un taux de criminalité quand même très élevé, on parle de pauvreté, on parle de chômage à 32%, c'est quand même énorme. Donc en 30 ans, vous voyez la malédiction du politique, on est parti de quelque chose qui était très, très, très prometteur, de la joie, le hope, hein, à l'écœurement. Voilà, c'est toujours pareil, les politiques, ils parlent beaucoup, mais arrivés à l'arrivée, ils font rien. Pourquoi? Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? On va nous dire si, mais à un moment donné, ça ne suffit plus, ça va comme ça. Alors, si on fait la révolution pour se retrouver avec les mêmes, c'est quand même grave. Parce qu'aussi, au fond, on n'a pas vraiment changé de paradigme. C'est-à-dire que quand vous voyez que Internet, c'est le même partout, c'est les mêmes opérateurs, je dis Internet, réseaux sociaux, Mark Zuckerberg avec ses trucs, vous voyez Google qui maîtrise tout, vous voyez, il y a des monopoles systématiques partout. Tant qu'il y a ça, il ne peut pas avoir d'ouverture. Il ne peut pas. Bill Gates, qui est alors le parrain de tout cela, c'est pourquoi on ne peut pas apporter. Je veux dire, j'ai appris qu'il y avait un Internet chinois, un Internet indien. Bon, sûrement en Russie, il y a l'Internet. Je veux dire, il faut que ce soit les autres qui vous donnent et puis qui peuvent arrêter quand ils veulent. Et puis, tout ça favorise la censure, tout ça favorise des abus et des effets pervers. C'est obligé, c'est obligatoire. Alors, ce sont les politiciens, normalement, qui devraient décider de ces lois qu'on disait antitrust, de ces choses ici et ça, mais apparemment, il y a une super classe, comme Marx disait, et puis une super structure qui fait que ben, on croule là-dessus et qui va casser cette super structure, parce qu'on a beau changer les dirigeants, on se retrouve avec les mêmes. On parlait des pathologies institutionnelles, c'est très joli, mais c'est plus simple, hein, c'est-à-dire que des dirigeants qui ont les mains liées, au Cameroun avant et en Afrique, on disait que la France possédait par la dette, par l'aide, et l'aide était liée, mais non, il n'y a plus d'aide, hein. L'aide, c'est fini. Maintenant, même au niveau international, le FMI, la Banque mondiale, on n'aide plus tellement. Hein? Non, 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 on fait des prêts, on fait des prêts. On avait dit oui, mais oui, on préfère faire le commerce et moins d'aide, mais maintenant, bah, c'est la dette, c'est la dette. On a hérité de ça, c'est toujours les mêmes process de liquidation du bien public aux étrangers ou aux forces étrangères, on ne comprend pas trop, qui se sont démultipliées au point qu'on n'arrive même plus à les identifier. C'est une machine infernale, comme on dit. Moi, je préfère en rire parce que c'est une façon de pleurer, hein. Vous savez toujours, comme on dit, mais on est dans une forme d'impasse. Et pour terminer, bon, bravo à l'Afrique du Sud, hein, qui a poussé, poussé, poussé pour qu'on puisse condamner Monsieur Netanyahou. Bravo. On finit quand même avec un mélodrame qui se joue ici depuis, avec entre Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot. Ah, voilà, le football. C'est ça qui nous permet ici de respirer. Et l'entertainment, voilà, parce que pour pas devenir fou devant ce que les politiques font. Alors, Monsieur, l'équipe nationale du Cameroun n'a pas de résultats depuis 2017. Et Monsieur Eto'o est arrivé il y a peut-être 4 ans, je ne sais plus, ou 3 ans. Il est le président de la FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football. Et n'ayant pas de résultats, étant en panne et en crise, l'État a repris la main par le biais de son ministre des Sports et qui a nommé un entraîneur parce qu'on a critiqué l'entraîneur précédent comme n'ayant pas le niveau, a nommé un entraîneur et là le clash a commencé. Non, il fallait pas. Monsieur Eto'o pense que ce sont ses prérogatives de nommer sélectionneur, de nommer le staff technique, de nommer les bon, beaucoup de choses. Alors il s'accroche sur des broutilles comme celle-ci. Vraiment des broutilles parce que Monsieur Eto'o, un pur produit footballistique, promu manager, administrateur, pourquoi pas. Mais ce qui touche quand même et fait mal est que ce sont quand même, je sais pas comment dire, parce qu'on insulte l'école en ce moment, on dit que les diplômes ça vaut rien, hein. Il suffit de faire star, d'aller pactiser avec le diable et tout ira bien. Alors, il y a quand même certaines nominations. Bon, on va dire que c'est des autodidactes et à force de forger, on devient forgeron. Vous avez été sportif, vous connaissez l'affaire, surtout de haut niveau. Dans un premier temps, oui, et dans un deuxième temps, non, parce que un administrateur, c'est pas seulement le gars qui joue au foot, c'est une autre fonction, ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je vais dire, monsieur Eto'o, peut-être au final, je ne sais même pas s'il serait un bon sélectionneur. Mais c'est des gens qui doivent faire partie du staff technique. Ce n'est pas vraiment des administrateurs. Voilà, il n'est pas administrateur dans l'âme. D'abord parce qu'il n'a pas le niveau scolaire qui va avec. Je veux dire, même quand on a un baccalauréat aujourd'hui, on ne peut pas gérer une structure comme la FECAFOOT. Non, il faut avoir un plus. Non seulement dans l'éducation, parce que ça vous permet de comprendre certaines choses. On a beau dire, hein, celui qui n'est pas allé à l'école et celui qui est allé à l'école, c'est différent. Il ne faut pas rêver. Et selon les niveaux, on acquiert quand même, lorsque les diplômes sont vrais. Au Cameroun, les diplômes sont faux. Bon, on n'en parle pas, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas été à l'école, c'est-à-dire qui ont fait jusqu'au brevet. Vous êtes un brevet d'études, vous devenez président de l'Africa Foot, il ne faut pas non plus exagérer. Et à un moment donné, vous serez limité parce que vous allez vous accrocher à des broutilles, genre je dois nommer, ce n'est pas la question. Un président n'est pas là. Et c'est ça le problème des Africains en général et probablement même des hommes politiques aujourd'hui dans le monde entier, des décideurs plutôt. On s'accroche à des broutilles, c'est moi qui nomme, c'est moi au pouvoir pour le pouvoir, sans regarder en fait l'efficacité de la chose ou l'effectivité même de la chose. On a ce problème-là au Cameroun, et c'est une culture, qui est une culture, pas seulement comme ce que je dis là, c'est partout dans le monde, hein. C'est une culture qui veut que c'est la cooptation qui compte. La position, une fois que vous êtes là, voilà, vous êtes installé et personne ne doit vous dire quoi que ce soit. Il faudrait quand même à un administrateur, ce qui leur manque beaucoup, c'est la diplomatie. La diplomatie arrange bien des choses, il faut être diplomate. Alors, dites à quelqu'un qui n'a pas un baccalauréat de comprendre c'est quoi la diplomatie. C'est des gens qui sont psychorigides. Et bon, le Cameroun est là, ils sont passionnés. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est le pion du peuple, hein, vu la démoralisation que je vous ai décrite là sur le paysage politique. Je ne parle même pas des médias parce que c'est encore autre chose. Les gens sont désorientés, ils sont perdus, ils n'ont pas de vision de ce qu'ils doivent faire, ils sont même rejetés, discriminés. La diaspora ici, on ne veut pas voir parce que quand on cultive la culture, quand on cultive la culture dont justement de la discrimination, il ne faut pas s'étonner. Alors les gens, ils s'accrochent à Eto'o. Ils s'accrochent à Eto'o, le public, hein, parce que là, c'est déjà le populisme que Eto'o fait. Ils sont accrochés à lui parce qu'ils sont tellement déçus de la politique qu'ils s'accrochent aux gens comme Eto'o, qui les font respirer. C'est une bouée d'oxygène et tout pour eux. Parce que autrement, bah, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Les routes ici, on boit la poussière. C'est comme ça. Bon, l'urbanisme, on n'en parle pas. L'ingénierie, on n'en parle pas. Il est sordide. Bon, quand les gens ont fini de vivre dans ces conditions-là, quand ils voient un étau qui a réussi à l'étranger, qui est millionnaire, je ne sais pas combien ou pas, ou milliardaire, j'en sais rien, qui vit, voyez aussi le rêve, voilà, qui se cristallise comme ça et qui se projette sur Monsieur Ito. Ah, les gamins sont accrochés à lui, c'est tout juste, c'est on dit qu'il pourrait même devenir président de la République, c'est-à-dire à partir de rien, même s'il a été docteur honoris causa, délivré par l'école de commerce de Lyon. C'est fort de café. Et pourquoi d'ailleurs étais-je une reconnaissance où est-ce que je vais dire? Ou ça rime à quoi de lui donner ce doctorat en économie? Économie de quoi? Du football? Je ne sais pas, c'est un technicien du foot. Bon, enfin, je ne comprends pas. Bon, bref, ceci nous ramène à la question sociétale où le politique joue au double jeu permanent. Hein, le FBI qui s'étonne que, oh oui, mais il y a des immigrés qui rentrent par le Texas, et c'est probablement les cartels du FBI, du Mexique, qui font passer les gens. Ah oui, le FBI s'étonne. Mais le FBI, ils ont couvert toute la censure sur Monsieur Biden. Pour pas qu'on sache tout ce qui se dit autour de lui, autour de ses relations coupables avec la Chine, avec l'Ukraine, qui nous conduisent aujourd'hui à la guerre, avec beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, d'un côté, vous censurez tout, vous êtes censeur, et puis de l'autre, vous voulez jouer ce monsieur qui s'occupe de l'immigration alors que vous n'en avez rien à foutre. Bon, amis de Radio Silence, vous avez écouté Flash sur le monde. Je vous dis à bientôt.